de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 23 février 1987.
Nous avions la dernière fois montré comment le jugement prudentiel devait s'insérer dans notre activité morale au niveau du choix. Comment le choix, l'élection des moyens était constamment perturbé par l'imaginaire et les passions. Et là, nous avons des quantités d'exemples dans notre vie ordinaire. J'ai fait réfléchir un tout petit peu l'examen de vos choix, l'examen d'un règlement de vie, et ainsi de suite. C'est peut-être même là où on saisit de la manière la plus explicite ce qu'est la prudence. Vous voyez, cette plateforme très particulière du choix, l'imperium, vous ne pouvez pas demander conseil à quelqu'un et dire à quelqu'un que vous aimez, pour moi, vous pouvez simplement demander à votre voisin, quand vous avez beaucoup renversé par terre, pour que vous sortiez votre lit. Vous savez bien, quand on visite la cellule d'un chartreux à la Val-Sainte, c'est ce qu'on voyait. On voyait qu'il y avait un chartreux qui avait beaucoup de peine de se lever le matin. Alors il avait inventé tout un système pour que, au moment où c'était l'heure, s'il restait 2 minutes de trop, 2 secondes de trop, puisque c'était l'exécution rapide, une grosse poutre dégringolait sur ses pieds. Et on voit très très bien ça. Donc, c'est la crainte qui va permettre à l'imperium d'être plus impératif. Alors, vous pouvez demander à quelque chose d'extrinsèque de venir faire que l'imperium soit plus catégorique. Parce que l'imperium, ça demande d'être très catégorique. C'est le commandement. On voit très bien ce que c'est. Fais ceci. Et c'est vous qui le faites. Vous pouvez vous aider de circonstances extrinsèques. Si tu ne fais pas ça, attention. Dans le conseil, et c'est ça, cette chose très curieuse du conseil, c'est qu'il y a une possibilité de demander conseil aux autres. L'amitié intervient énormément au niveau du conseil. Et même, c'est souhaitable, quand vous avez une décision importante à prendre, vous demandez conseil. Et demander conseil, c'est de l'ordre prudentiel. Quelqu'un qui ne demande jamais conseil, c'est un artiste. Vous savez bien, les artistes n'aiment pas demander conseil. Ne donnez jamais un conseil à un artiste. Vous êtes sûr de recevoir à ce moment-là un rejet violent de l'artiste. C'est là où on voit le mieux ce que c'est que les voix déterminées de l'art, comme dit saint Thomas à la suite d'Aristote. Les voix déterminées, un artiste ne demande conseil à personne. Il est téléguidé par son idée. Et l'idée lui fait comprendre qu'il y a un choix nécessaire. Tandis qu'au contraire, l'homme prudent, c'est les voix indéterminées. La prudence implique cette très grande souplesse de l'intellect pratique. Il ne faut pas confondre la prudence et l'art. Et c'est très important, bien comprendre les deux. Ce sont deux frères jumeaux de l'intellect pratique. Il y en aurait peut-être un troisième qu'il faudrait comprendre. C'est pas comme le troisième, parce qu'il est très très caché. Parce que l'intellect pratique est ou artistique ou prudentiel. Et il y aurait peut-être un troisième qui serait l'intellect affectif. Le choix de l'ami. Vous voyez, c'est dans l'ordre pratique. Et c'est presque au-delà de la prudence. Très curieux. Quand quelqu'un se décide d'épouser quelqu'un, est-ce que c'est de l'ordre prudentiel? Posez-vous la question. Est-ce que le choix de l'ami au sens fort, est-ce que c'est prudentiel ou est-ce que c'est au-delà de la prudence? Je crois que c'est au-delà de la prudence. Et qu'il y a là un choix affectif. Parce que l'ami n'est pas qu'un moyen. Ça, on va retrouver le problème un peu plus loin. Et c'est très intéressant, ça. De sorte que, entre l'intellect pratique, artistique, et l'intellect pratique, prudentiel, il y a constamment une rivalité. Parce que l'artiste ne demande pas conseil. Tandis qu'au contraire, l'homme prudent demande conseil. Et vous êtes capable de recevoir le conseil de l'homme prudent. Si vous êtes prudent, c'est même le signe le plus manifeste de votre prudence. C'est d'accepter le conseil d'un autre. Celui qui n'accepte jamais le conseil d'un autre, c'est l'artiste qui l'emporte sur l'homme prudent et qui fait qu'à ce moment-là, l'artiste ne décide que ce qu'il a lui-même décidé. Et ceci à cause de l'idée qu'il a. Tandis qu'au contraire, un homme prudent ne vit pas d'idée. Il vit la finalité de l'amour de la fin. Et il sait très bien que les moyens sont multiples. Parce que c'est au niveau du choix prudentiel, du choix moral, que la liberté se manifeste de la meilleure façon. La liberté de choix, ça se manifeste le plus. Et c'est pour ça que très souvent, pour la plupart des personnes, la liberté, c'est toujours la liberté de choix, ce qui n'est pas juste. La liberté se manifeste selon des modalités différentes. Mais il est sûr que dans le choix, la liberté apparaît de la manière la plus forte. Nous reviendrons sur ce problème de la liberté. Parce que comme c'est tellement capital aujourd'hui, il faut y revenir sur ce problème pour lui-même. Mais il y a une liberté de choix. Et il y a une liberté de demander conseil. Vous êtes libre de demander conseil. Qu'est-ce qui vous force de demander conseil à un ami ? Vous êtes libre. Mais si vous êtes prudent, vous demandez conseil à un ami en qui vous avez toute confiance. Parce que vous dites que l'ami a une objectivité plus grande que vous. Lorsque vous êtes engagé, on n'a plus cette même liberté. Parce qu'on voit moins bien les choses. Donc, il faut bien comprendre cela, que le choix, donc l'acte prudentiel de choix, peut se doubler de la prudence de demander conseil à quelqu'un. Et c'est peut-être là où la conscience de ce que représente cet acte prudentiel se manifeste le plus, parce que c'est une prudence au carré. C'est pas seulement être prudent par rapport au choix, mais c'est être prudent en demandant à un autre d'intervenir pour nous et d'accepter l'autre. Vous voyez ? Parmi les actes humains, c'est le choix qui nous ouvre aux autres. C'est important, ça, pour quelqu'un qui est enfermé dans sa carcasse ou dans ses idées. Ça arrive. Comment peut-il s'ouvrir aux autres ? C'est en réfléchissant sur ce qu'est le choix. très intéressant sur passé dans le domaine chrétien et dans le domaine religieux, ce serait de voir que c'est à l'égard du choix que va intervenir l'obéissance. J'accepte la décision d'un autre comme si c'était ma décision. C'est parce que justement, là, il y a une possibilité dans l'acte humain de faire intervenir l'autre. Et c'est pour cela que dans la mesure où la morale se laisse contaminer par l'art, comme dans le stoïcisme ou dans l'épicurisme, dans cette même mesure, l'obéissance disparaît. C'est-à-dire l'intervention de l'autre disparaît. Il ne peut plus y avoir cette ouverture vers un autre. On reste enfermé dans ses propres idées. Personne ne peut intervenir. Donc il y a là tout un problème extrêmement important au point de vue de ce que représente la nécessité de la prudence. La prudence nous ouvre aux autres. Parce que c'est l'intellect pratique. Alors que l'influence de l'imaginaire et de la passion nous ferme aux autres. Et cette fermeture peut se faire aussi par la confusion dans l'ordre imaginatif entre le domaine artistique et le domaine moral. Ce qui est un des gros problèmes d'aujourd'hui, vous voyez. Toute l'éthique de Sartre, pour prendre quelque chose d'actuel, toute l'éthique de Sartre, c'est l'influence artistique sur la morale. Sartre est un artiste. En tant qu'artiste, on le respecte. En tant qu'il fait la confusion entre l'art et la morale, on ne peut plus le suivre. Morale de situation. La morale de situation, c'est nettement une morale artistique. Saint-Exupéry, d'une autre manière, c'est la morale de l'efficacité. Et c'est encore l'emprise du Fatscheré sur le point du moral. C'est très, très important. Et la morale, s'il en existe encore, chez le point de vue psychanalytique de Freud, c'est Épicure. Et c'est donc l'esthétisme qui prend possession de la morale. Alors, le lieu où l'on voit ces confusions, c'est le point de vue de la prudence qui maintient ce jugement de l'intellect pratique dans l'ordre du choix. C'est pas étonnant, hein, c'est le choix qui est le lieu des confusions et le lieu de la distinction. C'est très très important, la question du choix. Et les stoïciens avaient très très bien compris la proairesis, le choix. Pour eux, c'était là où la personnalité humaine se noue. Et c'est vrai. Regardez, dans une certaine morale chrétienne, l'élection, une retraite d'élection, ça joue un rôle capital. Et on comprend très bien, c'est, à certains moments dans la vie, on a besoin de choisir, d'élaguer. Parce que dans tout choix, vous élaguez. Dans tout choix, vous choisissez tel moyen, vous donnez à tel moyen un rôle unique, privilégié, et vous laissez tomber les autres. Donc dans tout choix, il y a l'action du Père qui taille. C'est pour ça que c'est quelquefois si difficile de choisir pour un intellectuel. L'intellectuel, chez qui l'intelligence spéculative a pris toute la sève de l'arbre. Comme c'est difficile de choisir. Il faut regarder les intellectuels d'aujourd'hui. Comme c'est difficile pour eux de choisir. Ils voient tous les possibles. Alors ils sont un peu comme la demi-ridant. Vous savez bien l'histoire de l'âne de Buridan. Deux mottes de foin. Il les regarde. Elles sont à peu près semblables. Il y a du pour et du contre. Alors, il ne choisit jamais. Et il en crève. C'est très, très curieux. Et chez les intellectuels, chez qui l'intellect spéculatif l'emporte sur l'intellect pratique, il y a toujours un peu la même chose. La difficulté de choisir. Et même quand ils ont choisi, ils reviendront sur leur choix. En disant, ah, on m'a influencé. Alors on dira, maladie du scrupule. Oui, maladie du scrupule. C'est peut-être plus fondamental que le scrupule. C'est peut-être cette emprise de l'intellect spéculatif sur l'intellect pratique. On ne voit pas assez ce que c'est que l'intellect pratique qui réclame de s'engager en vue de l'amour de la fin. Il n'y a pas assez d'amour, vous voyez. Toute la sève est partie du côté de l'intelligence et notre cœur reste un tout petit peu étroit. Alors si toute la sève va du côté de l'intelligence, je ne m'engagerai jamais. C'est pour ça que chez tous les intellectuels qui veulent garder une santé, c'est-à-dire un réalisme, il faut, dans un domaine, qu'ils aient un engagement. S'ils n'ont pas d'engagement, ils risquent de rester des intellectuels. Et donc, de jamais choisir. C'est cruel pour un intellectuel de choisir. C'est la mort dans l'âme, c'est un sacrifice. Parce qu'évidemment, il y a toujours un massacre d'innocents. Les innocents, c'est tous les petits possibles qui poussent très bien, surtout les printemps. On les voit, ils sont tout roses, ou tout verts, ça dépend. Ils sont merveilleux, ces petites pousses. Et quand vous choisissez, pouf, tout ça est rejeté dans le fossé ou dans l'abîme. Et vous devez choisir. C'est terrible de choisir. C'est effrayant de choisir pour un intellect, pour un intellectuel, pour l'intelligence spéculative. On veut rester dans le domaine de tous les possibles. C'est tellement plus agréable. Parce que dans le domaine des possibles, vous gardez le dominium. Quand vous avez choisi un moyen, vous faites que ce moyen qui est choisi passe devant. Et vous vous engagez. Donc vous acceptez une certaine mort à l'égard de tous ces possibles. Faites un petit examen de conscience. Dans ce domaine-là, vous verrez combien c'est difficile d'accepter un choix dans le sens fort. Et combien là la prudence qui vient ennoblir notre intellect de pratique est nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ce que Gabriel Marcel avait dit d'une façon très très jolie, en disant la différence entre le spectateur et le témoin. C'est très juste. Quand vous êtes témoin, vous avez choisi. Vous vous êtes engagé. Spectateur, l'âne de Buridan. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein? Alors ça, c'est le spectateur. Le spectateur demeure en dehors, et le plus possible en dehors. Il garde la possibilité à l'égard de tous les possibles. C'est la possibilité au carré. Hein? Et c'est le propre de l'intelligence spéculative, ça. De rester. C'est important de comprendre là l'intervention de ce que c'est que la prudence. La prudence vous fait passer du spectateur au témoin. Parce que le témoin, c'est celui qui a choisi. Et il a choisi tellement bien que ça va jusqu'à la mort. Donc, il veut mettre toute sa vie, quand ce moyen vaut la peine, il veut toute sa vie soit engagé, orienté vers ce témoignage. Tout tout témoignage implique un acte de choix. Vous ne pouvez pas être témoin sans avoir choisi. C'est impossible autrement. Vous n'êtes pas vraiment témoin. Tandis que spectateur, c'est celui qui n'a pas choisi. J'ai été là, au bon moment. J'ai vu. Alors on vient vous demander, est-ce que vous acceptez d'être témoin? Ah non, 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 parce que je dois m'engager comme témoin. Je dois prendre parti. Ah, moi, je peux pas prendre parti. Je suis spectateur. Oui, le spectateur. Il doit laisser tomber des quantités de choses. Il faut réfléchir là-dessus, c'est très important. Et voir si, spontanément, vous êtes spectateur, vous êtes témoin. Là, vous avez le partage des eaux. Donc, il y a là un rôle très important de la prudence. Troisième moment. C'est la question. Est-ce que la prudence intervient là? Nous avons vu précédemment que il y avait l'impérium, le choix et l'intention de vie. Ce fameux passage d'un premier amour vis-à-vis de l'intention de vie. Ce passage bien à la fin. N'oubliez jamais ça. Le passage de la fin au moyen. Ce passage du moyen à la fin. Choisissez toujours ce qui est le plus difficile. Le stoïcien. Je parle en philosophe. prochaine, ça prendra des nuances particulières. Et on verra certaines grandes spiritualités s'orienter de ce côté-là, s'orienter de l'autre côté. Ça, c'est l'ordre de la spiritualité chrétienne. Alors, je me pose la question, et il faut la poser. Ce passage, puisque je remonte, et je remonte exprès, parce que il y a un problème qui se pose. Ce passage de l'amour spirituel à l'intention de vie a besoin d'être fortifié de l'intérieur par l'intelligence pratique. Parce que il y a un très grand danger de tomber dans le dilettantisme. Le dilettantisme est une maladie bien connue dans notre monde d'aujourd'hui. On devient aboulique. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune volonté. Ah, on aime, au fond, on a un cœur aimant extraordinaire. C'est un point de vue de l'amour, on est capable de battre tout le monde. Mais quand il s'agit d'une orientation de vie, et donc d'une décision, l'intention de vie implique une décision, et une décision importante, qui rassemble tous nos moyens en vue de la fin. Quand il s'agit de passer de cet amour spirituel à l'intention de vie, il faut un éclairage de l'intelligence pratique qui enlève toutes les séductions possibles. Parce que le dilettantisme, il est à base de séduction. C'est tellement plus agréable de rester uniquement dans l'amour et de ne jamais s'engager. Vous voyez, l'attitude de ceux qui aujourd'hui s'aiment, ils ne veulent surtout pas l'institution du mariage. Le mariage libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je reste dans un amour spontané. Tant qu'on s'aime, on vit ensemble. Mais le jour où on ne s'aimera plus, ben oui, il faut être sincère, on se sépare. Tandis que si vous faites intervenir une décision, une intention de vie, on se marie. Mais c'est plus qu'un choix, hein. C'est une intention de vie. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose d'extrinsèque, comme ils disent, d'extrinsèque à l'amour, qui tombe dans le juridisme. Pourquoi aller se marier en face du maire ? Le maire n'a rien à voir avec notre amour. Il ne nous connaît pas. L'amour est extérieur à tout ce que représente le point de vue de la cité, tout ce que représente l'institution. On s'aime. Personne n'a rien à voir là-dessus. C'est notre propre problème, ça. On s'aime. Alors, on vit ensemble. Et tout ce qui vient de l'extérieur est rejeté au nom du purisme de l'amour. C'est extraordinaire, ça. C'est très, très intéressant. C'est le problème actuel, hein, ça. Là, vous touchez le problème fondamental d'aujourd'hui. Et dans tous les ordres, c'est comme ça, vous voyez. On ne voudra surtout pas la vie religieuse. Parce que dans la vie religieuse, on s'engage. Donc, connaissez la fable de la fontaine. Le loup et le chien. Cette rencontre étonnante. On est tous très loups. La sainte liberté au-dessus de tout. Et l'amour libre. Et le loup qui voit le chien un peu embourgeoisé. Parce qu'il a sa pitance tous les jours. Il lui regarde le cou. Qu'est-ce que tu as là au cou ? Ah, il y a le collier. Il n'avait pas parlé. Aujourd'hui, l'institution, c'est le collier. Et toute espèce d'institution, c'est le collier. Ah, tiens, non, non, moi, je veux rester libre. Je veux partir de ces gens libres, de ces loups. Là, on est dans la sincérité. Tandis que le collier, ben, c'est pas sincère du tout. Vous vous êtes engagé, vous avez promis, et puis vous aimez plus, donc vous n'êtes plus sincère. Et donc, vous abîmez l'amour. Parce que vous faites intervenir dans l'amour un élément qui n'est plus l'amour, l'institution. Et ceci, dans tous les ordres d'institution, c'est comme ça. Même au plan théologique, vous retrouvez ça. Si vous lisez attentivement le livre du père Congar, hein, Essai d'une théologie pour le laïcan. C'est un livre très intéressant, sous ce point de vue-là. Parce que ça dit les choses. Alors on fait l'opposition entre la vie et l'institution. La vie, vous comprenez bien, la vie, c'est l'amour, c'est bien évident, moi je suis un vivant. Alors vous avez la vie, et vous avez l'institution. L'institution ne peut exister qu'à partir d'une intention de vie. Impossible autrement, c'est pour ça que je dis institution de vie, voyez. Je fourre la vie des deux côtés. Tandis qu'au contraire, ceux qui sont pour l'opposition, alors mettre vie d'un côté, institution de l'autre. C'est extrêmement intéressant, ça. Il faut lire ça attentivement pour comprendre un petit peu au plan théologique. Ce sont des distinctions qui sont capitales et qui sont tellement actuelles aujourd'hui. Parce que vous voyez que c'est tout le traité de l'Église. L'Église, c'est le vivant. Comme le Christ, c'est le vivant. Alors, si vous dites que l'institution dans l'Église supprime à l'Église la vie, vous faites plus qu'une carcasse métallique et vous avez les institutions, vous avez l'Église et son personnel. Le personnel, c'est du côté de l'institution. C'est les gens qui balaient le matin pour que ce soit propre. C'est la hiérarchie. C'est toutes les choses qui viennent d'aller. C'est le gros problème d'aujourd'hui. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, ce serait intéressant de voir d'où ça vient. Est-ce qu'alors, c'est encore un vieux truc d'Occam? Qui est là par derrière? Est-ce que c'est Kant qui part derrière aussi? Est-ce que c'est vrai? C'est des distinctions qui... On a fait de certaines distinctions des séparations. Et on est tombé dans un dualisme. Le dualisme vie-institution. Le dualisme amour spirituel, avec tout ce qu'il a de spontané. Et puis l'intention. C'est très radical, ça. C'est pour ça que je crois que c'est un moment très important, ça, à bien comprendre. Est-ce que l'intention de vie est extrinsèque à l'amour? Ou est-ce que l'amour réclame par lui-même l'intention de vie? Vous voyez que vous êtes en face de la première distinction entre le bien et la fin. La fin, c'est mon conditionnement de créature. Pour la créature, la fin est distincte du bien. Si j'étais Dieu, ma fin et mon bien seraient identiques. Mais puisque je suis une créature, il y a une distinction radicale entre le bien et la fin. Donc, c'est le conditionnement de la créature et l'aspect spirituel de la créature. Je suis capable d'aimer, et dans l'amour spirituel, il y a quelque chose d'infini. Mais étant donné mon conditionnement de créature, donc d'homme, bien qui m'attire, me transcende. Il est au-delà de moi. Parce qu'il est au-delà de moi, je le considère comme une fin. Vous voyez comment, à l'intérieur même de l'attraction du bien qui m'attire, qui me transcende, je découvre que pour respecter ce bien et l'atteindre d'une manière efficace, il faut que cet amour se transforme en intention de vie. C'est donc le point de vue spirituel immanent de la vie qui va respecter le conditionnement de la créature. Et le premier conditionnement de la créature dans l'ordre pratique, c'est considérer la distinction entre le bien et la fin. C'est bien le premier moment. Distinguer les deux, voyez. Autrement dit, considérer que la fin peut être vue de deux manières, d'une manière purement immanente dans l'amour. Et la fin peut être considérée d'une manière transcendante, où je respecte à ce moment-là mon conditionnement. C'est très important de saisir ça. Ça correspond, si vous voulez, au plan philosophique entre ratio et modus. La fin, c'est un mode du bien. La ratio boni, comme telle, peut se réaliser de diverses manières. Pour moi, cette ratio boni se réalise comme une fin que je dois atteindre. Et je dois mobiliser toutes mes forces pour atteindre cette fin. Donc, fondamentalement, vous voyez, c'est la distinction ratio-modus. Dans l'ordre pratique, c'est la première distinction. C'est donc quelque chose de très, très fondamental qu'on touche là. Distinguer l'amour spirituel dans ce qu'il a de tout à fait premier et d'immanent. L'amour est toujours immanent. Et à l'intérieur de cette immanence, l'apparition de la transcendance. Ce bien que vous aimez, qui vous attire, devient votre fin. Et vous acceptez de reconnaître que ce bien qui vous attire n'est pas vous. Allô, allô, autre, autre, à l'intérieur de cet amour, je vois que ce bien est autre, il me transcende, il me dépasse. Et parce qu'il me dépasse, je fais tout ce que je peux pour l'atteindre. Et la différence entre l'affectivité et l'efficacité, l'efficience, je fais tout ce que je peux, je mobilise toutes mes forces pour l'atteindre. Mobiliser mes forces, c'est le conditionnement de la créature. Je mets mon intelligence au service de l'amour d'une autre manière. Je mets mon intelligence au service de l'amour. C'est très vrai que l'intention de vie implique un regard de l'intelligence. Parce que je vois que ce bien me transcende et ce n'est pas moi. Voyez, réfléchissez quand il s'agit de l'ami, puisque c'est peut-être là où nous saisissons le mieux. Autre chose est aimer quelqu'un. Je suis attiré, je l'aime. Et puis, cette réflexion que nous faisons en disant ce bien, cette personne qui m'attire, dans quelle mesure peut-elle être ma fin? Il y a tout un aspect de réflexion de l'intelligence pratique qui intervient pour voir que cet amour qui est présent en moi, je peux le considérer comme une intention de vie. Et dès que je le considère comme une intention de vie, ça mobilise toutes mes forces. Mais je peux très bien aussi, alors sous le point de vue imaginatif, sous l'influence du point de vue imaginatif et passionnel, dire « Ah non, je ne veux pas. C'est tellement plus agréable de considérer que c'est mon bien. Il ne faut pas aller plus loin. Surtout pas que l'intelligence intervienne. Je veux uniquement aimer. Mais c'est très bien d'aimer. Mais vous restez alors dans l'ordre intentionnel de l'amour. Et vous ne voyez pas le réalisme de l'amour. Et cet amour, quand il n'accepte pas ce réalisme de l'amour, risque toujours de se gâter. L'amour demande une réalisation concrète. Et cet amour doit devenir, cet amour à l'égard du bien doit devenir ma fin. Donc, il faut bien réfléchir sur ce passage-là. C'est très important au point de vue pratique. Alors, je me pose la question. Est-ce que la prudence intervient là? D'une façon classique, scolastique, la manière dont on traite saint Thomas à la sauce vinaigrette. Alors ça, c'est la scolastique. La scolastique décadente à partir du XVIIe siècle. On dira, la prudence regarde les moyens. Là, c'est net. Ça regarde les moyens. Ça ne regarde jamais la fin. Donc, l'intention de vie s'impose à l'homme prudent. Et la prudence ne regarde pas l'intention de vie. Et on dira, ah, la sainte hérèse, hein, vous n'avez jamais entendu parler de cette sainte, la sainte hérèse dont parle saint Thomas, regarde, elle, la finalité. J'ai appris ça, moi. C'est intéressant, du reste, d'éterrer la sainte hérèse. C'est la Sainte Thérèse, vous voyez, la Sainte Thérèse. La Sainte Thérèse regarde le point de vue de la finalité. Et on fait ce petit parallélisme, très intéressant du reste, dans l'ordre de l'intelligence spéculative. Vous avez l'habitus des principes qu'on appelle l'intelligence. Il y a l'habitus des principes, des premiers principes, qu'on appelle l'intellectus, le nous, en grec. Il y a un habitus. L'intelligence est ennoblie dans ce qu'elle a de plus profond, pas dans ses raisonnements, mais dans ce qu'elle a de plus profond à l'égard des premiers principes. Vous avez donc l'intelligence des premiers principes. Ça vient d'Aristote et saint Thomas l'a repris. Vous faites le parallélisme parce qu'on est toujours comme ça, vous savez. Hein. Quand on a découvert une distinction, on l'applique à tous les domaines. Alors, c'est ça le danger de la scolastique. C'est qu'on a oublié ce que c'est que l'analogie. Vous distinguez l'habitus des premiers principes de l'habitus des sciences. Chose la science, autre chose les premiers principes. Tu restes assez dans les analytiques d'Aristote, c'est très net. La science, l'épistémé d'Aristote, la science au grand sens d'épistémé n'est jamais une connaissance première, elle est toujours une connaissance seconde. Pourquoi ? Parce que la science regarde les conclusions. Et c'est pour ça que vous avez troisième habitus. L'habitus de sagesse qui fait la synthèse des deux. Puisque la sagesse regarde les principes et regarde les conclusions. La sagesse est science. Et la sagesse, elle va remonter à la source. Puisque c'est le propre du sage de remonter à la source. Or, les principes sont la source. Je peux regarder les principes de deux manières. Je les saisis en tant que principe premier. Alors c'est l'intellectus, l'intelligence, trois grands habitus. L'habitus de l'intelligence, dans ce qu'il a de plus radical, et cet habitus saisit les principes, les premiers principes. Puis vous avez l'habitus de science, puis vous avez l'habitus de sagesse. Donc il faut bien distinguer ça, c'est très important. On le reverra en critique, pas tout de suite, mais on reverra ça en critique. C'est la structure profonde d'une intelligence parfaite. Une intelligence ennoblie par l'habitus. Par les habitudes, puisque l'intelligence au point de départ, elle est tabula rasa. Alors elle est plus rasa que tabula. Alors on voit très bien ce que c'est, tabula rasa. Il n'y a pas un poil. C'est lisse, lisse, lisse. Et tout coule. Alors, c'est vrai, il y a des intelligences comme ça. Être intelligent, c'est laisser couler les choses. Alors c'est le rasa qui est resté. N'est-ce pas ? C'est ça coule, ça coule. Tandis que tabula rasa, ça veut dire que l'intelligence au point de départ n'a aucune détermination. Et qu'elle doit recevoir des déterminations. Et c'est parce que l'intelligence a cette potentialité radicale qu'elle a besoin d'être ennoblie par les habitus. Vous faites le parallélisme avec l'intellect pratique. Et vous avez l'habitus du bien.